racines et on veut prier certainement pour eux. Triste pour l'Église aussi. Comme ce matin, M. Bacon était ici, Roger Bacon, et Roger était, M. Bacon était le pasteur de Valleyfield pendant plusieurs années. Mais là, l'Église est laissée sans ouvrier, donc ils ont besoin de nos prières, certainement. Et on veut juste prendre un temps pour prier pour Francine, si vous voulez bien, et les enfants, d'accord? Et pour l'Église aussi. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier, te remercier d'abord pour cette assurance que nous avons de l'éternité. Quel réconfort de savoir que notre frère Robert est maintenant dans ta présence, dans la joie. Plus aucun problème, Seigneur, il est vraiment là dans cette joie parfaite dans ta présence pour l'éternité maintenant. Seigneur, on prie pour les enfants, on prie pour Étienne, Catherine, Lydia, que tu puisses les accompagner et certainement les consoler. On prie pour Francine aussi, qui a vraiment besoin que tu l'entoures ces jours-ci, alors qu'elle vient de perdre son mari. Veuille la fortifier, l'encourager, Seigneur, dans ces moments pénibles de deuil. On te prie aussi pour l'Église, que tu puisses la consoler, alors qu'ils viennent de perdre quelqu'un qui leur était très cher, notre cher ami Robert. Le Québec vient de perdre un grand enseignant, grand enseignant de la parole de Dieu. On te prie, Seigneur, pour cette Église. Bénis-la abondamment. Seigneur, ce matin, nous aimerions te demander cette grâce de pouvoir nous enseigner, d'ouvrir notre cœur, les yeux de notre cœur par ton esprit, nous aider à comprendre le message que Paul veut nous livrer dans cette portion des Écritures qu'on veut voir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Une famille qui allait à l'Église depuis un bon bout de temps, c'est un jour chicané avec une autre famille qui allait à la même Église. Ils ont alors décidé de s'en aller, quitter l'Église, mais ils ont décidé de quitter l'Église, point à la ligne, et de ne plus aller dans aucune Église. On peut comprendre que ça a eu un impact sur leur jeune fille. Celle-ci s'est retrouvée livrée à elle-même pour forger son identité, alors qu'elle passait à travers une saison importante de sa vie, l'adolescence, et ça a duré jusqu'à l'université. Elle raconte elle-même, cette jeune fille raconte, « J'ai trouvé mon identité dans les garçons et ma valeur dans leur adoration de mon corps. J'ai souvent dérapé au niveau de la sexualité, mais je croyais le mensonge de Satan, selon lequel ce n'était pas bien grave. » Heureusement, Dieu a dirigé cette jeune fille dans une bonne église alors qu'elle débutait son université. Et c'est à ce moment-là qu'il y a tout un long processus qui a commencé à enlever certaines couches de cette identité qui s'était forgée au fil de quelques années et qui l'affectait, évidemment. Voici ce qu'elle dit. « Pour la première fois, j'ai appris que j'étais une pécheresse. La bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ avait fait pour moi n'avait jamais été clairement proclamée. Dieu m'a ouvert les yeux et révélé la vérité. Pour la première fois, j'ai vu ce que j'avais fait à Jésus. J'étais une misérable pécheresse. Pendant 9 mois, cette jeune fille a lutté contre le péché, l'a confessé, s'en est repenti, puis l'a abandonné finalement à Jésus-Christ. Elle continuait à le faire. Voici ce qu'elle dit. Elle dit, « Mon orgueil était humilié, toutes mes fondations étaient branlées et mes idoles étaient démolies. Je me suis vue comme une prostituée, sexuellement impur, et c'est justement là que le diable me tenait encore. J'en ai oublié la bonne nouvelle, que nous sommes certes des pécheurs, mais que par Jésus, il n'y a pas de condamnation, seulement la grâce. » Elle a finalement pleinement compris l'Évangile. Elle n'était pas juste une pécheresse condamnée par Dieu. Elle était, oui, auparavant une pécheresse, mais à présent, une femme sauvée par grâce, rendue nouvelle en Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Elle ajoute dans son témoignage ce qui suit. Elle dit, « La révélation de la grâce de Dieu était nouvelle pour moi. Le Saint-Esprit m'a rempli et j'ai clairement ressenti son amour et je compris que j'étais adopté, devenu sa fille, que j'étais réconcilié et que je faisais partie de la famille de Dieu. » En plus, et plus important encore, par la puissance de Christ, j'ai la victoire sur Satan, le péché et la mort. Je suis libre de mes péchés. Je ne m'étais jamais senti aussi libre dans ma vie. Les liens du péché qui me retenaient sont brisés et l'ennemi ne peut pas me condamner parce que j'ai été libéré par Christ et son acte rédempteur. Voilà la bonne nouvelle, dit-elle. Tout mon péché est allé à Jésus qui a pris ma place. Je méritais cette mort, mais il a payé ma peine, puis m'a accordé sa justice. C'est une grâce imméritée. Alors, comprendre l'Évangile a complètement changé la vision de cette jeune fille. Et par conséquent, ça a eu un impact sur son style de vie, sa conduite. Elle conclut en disant, « J'ai été régénéré, transformé complètement et entièrement par le Saint-Esprit. J'avais de nouveaux désirs. Je haïssais le péché et aimais vivre avec Dieu. J'avais l'impression d'être né de nouveau parce que Dieu avait changé mon identité et m'avait transformé à l'intérieur. » Quel beau témoignage! Elle a finalement compris sa nouvelle identité en Jésus-Christ. Et ça fait toute la différence. Depuis un certain temps, avant les fêtes, d'ailleurs, nous avons commencé une nouvelle série sur notre identité. Que maintenant, nous avons une nouvelle identité maintenant que nous sommes des enfants de Dieu. Tous ceux et celles qui viennent à Jésus-Christ pour recevoir le salut, qui se reconnaissent pécheurs et perdus sans Jésus, et viennent à lui pour recevoir son pardon et son salut, et qui croient que Jésus-Christ a pris leur place sur la croix, deviennent une nouvelle créature. Ils reçoivent la vie éternelle, le pardon de leurs péchés. Ils ont une relation maintenant avec Dieu. Et ça a tout un impact sur nous, sur cette nouvelle identité. Parce que la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Une personne changée, avec des nouveaux désirs, nouvel appétit. Le cœur change. Nous avons une nouvelle identité. Et lors de notre première rencontre, ce qu'on a dit, notre première rencontre sur le sujet, on expliquait ce que c'était quoi ça, notre identité. Et bien, notre identité, c'est la façon qu'on se perçoit, qu'on se voit. Notre identité va avoir un impact sur nous, soit positif ou négatif. Une personne, par exemple, s'est toujours fait dire qu'elle ne pouvait rien faire de bon dans la vie, va tôt ou tard commencer à le croire et elle va devoir lutter bien des années avec cette pensée qui vont trotter dans sa tête. Ça va revenir. D'ailleurs, récemment, ma femme et moi, nous avons été visiter quelqu'un qui nous racontait comment, depuis son jeune âge, sa mère lui disait qu'elle était niaiseuse, stupide, niaiseuse. Et d'ailleurs, même, il y a certaines choses que je ne vous dis même pas en public que sa mère lui disait. Elle traitait de toutes sortes de noms. Et alors qu'aujourd'hui, elle est adulte, ça fait des années de ça. Encore aujourd'hui, elle dit, j'entends toujours la petite voix de ma mère qui me dit que je suis niaiseuse. Et je dois constamment me battre contre ça. Ça revient régulièrement. Et c'était son identité. Elle a eu une identité qui s'est forgée au fil des années. Et par la grâce de Dieu, elle est en train d'enlever cette couche-là chez elle. Et ça a un impact sur la personne. On a pu échanger ensemble et regarder sa nouvelle identité maintenant en Jésus-Christ et comment elle a besoin de se répéter cela pour corriger ses pensées erronées qui circulent dans son esprit. Mais c'est une lutte, elle doit le faire si elle veut arriver vraiment à une pleine liberté. Nous avons besoin de regarder notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et la lettre aux Éphésiens a été justement écrite pour nous aider à comprendre cette nouvelle identité. Comme on l'a déjà dit, Klein Snodgrass a déjà dit que la lettre aux Éphésiens a été écrite justement pour la formation de notre identité. Ça part de notre identité. Comme on a vu depuis le début de la série, nous avons vu que maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, bien des choses ont changé. Par exemple, la lettre aux Éphésiens commence en disant, en nous appelant tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il les appelle saints, mis à part. Nous sommes saints, bénis, appréciés, sauvés, réconciliés avec Dieu, encouragés, entendus, nous sommes doués aussi, on reçoit des dons de l'Esprit. C'est une capacité divine, une énergie divine pour accomplir un service au sein de l'Église, pour s'encourager mutuellement et s'aider à grandir mutuellement. Et aujourd'hui, on regarde un autre aspect de cette nouvelle identité, c'est que nous sommes nouveaux. Nous sommes une nouvelle personne. Mais maintenant, même si nous avons une nouvelle identité, on n'est pas parfait. On a besoin de grandir. Et c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines ensemble. Nous avons commencé à regarder le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Et lorsque Paul traverse le chapitre 4, lorsqu'il commence ses quelques derniers chapitres, il va nous aider à voir comment on peut grandir en Jésus-Christ. Parce qu'il est notre modèle. Jésus est le modèle par excellence. Nous voulons ressembler de plus en plus à Jésus. Et ensemble, nous voulons grandir pour ressembler à lui. Ça ne sera pas complètement ici, sur terre. Lorsqu'on sera avec lui dans l'éternité, nous serons complètement changés. Et là, nous serons parfaits. Mais en ce moment, nous avons besoin de grandir encore. Et Paul amorce une série de messages à partir du chapitre 4 pour nous aider à voir comment on peut grandir. Par exemple, il y a deux semaines, nous avons vu que nous avons besoin, pour grandir, nous avons besoin de changer d'idée. On a vu qu'on a besoin de vivre selon cette nouvelle identité, développer de bonnes attitudes. Il faut absolument avoir cette humilité, centrer notre vie sur l'Évangile et exercer un ministère les uns envers les autres. Parce qu'on a reçu des dons, on veut s'investir dans la vie de chacun pour s'aider mutuellement et s'encourager à grandir. Maintenant, Paul va continuer à nous montrer comment changer, comment grandir, à partir du verset 17. Il continue le même thème. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans Éphésiens chapitre 4, et on va lire le verset 17, si vous voulez bien. Chapitre 4, verset 17. On va lire, tiens, jusqu'au verset 19. Alors, Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. On va arrêter notre lecture ici. On va aller un peu plus loin plus tard, tantôt. Le verset 17 commence en disant « Voici donc ». C'est une expression qui signifie, chez Paul, que Paul veut nous montrer comment on peut grandir et devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Et ce que Paul va dire essentiellement, il va prendre l'image d'un linge. Et son message du verset 17 jusqu'au verset 24 est celui-ci. Très simple, c'est celui-ci. Mets-toi sur ton 36. Mets-toi sur ton 36. Et bon, ça vient, c'est une expression qui est bien connue au Québec. Il y avait un anglophone ce matin ici, frère, il disait, c'est drôle, en anglais, on n'a pas cette expression-là, mais Michael Maréchal, hier, tantôt, entre les deux périodes, les deux services, il est venu me voir, me montrer ça. Il dit, oui, il regarde les expressions en Angleterre et tout ça. Différentes sources, ça vient d'où cette expression-là? Il y a une théorie qui dit que, bien, premièrement, ça vient de l'Europe, et en Europe, ce qu'ils disent eux autres, c'est mettez-vous sur votre 31. C'est pas 36, ça a changé. Au Québec, on dit 36. Mais l'expression remonterait à un jeu de cartes, apparemment, qui remonte, mon ami, il y a plusieurs centaines d'années, à un jeu de cartes, alors que tu accumulais des points, et lorsque tu arrivais à 31, c'était le summum, c'était le plus beau, c'était « Oh yes! » Tu sais, « Wow! » Ça, c'était plus beau. Alors, l'idée, c'est de se mettre sur son 31, c'était de se mettre sur son plus beau. Une autre théorie, ça dit que ça ferait référence à simplement la veille, le 31 décembre, donc la veille du nouvel an. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles propre, tu te mets beau, chic et tout ça, tu fêtes la nouvelle année. Donc, tu te mets sur ton 31. Au Québec, on a l'expression « mets-toi sur ton 36 ». Quelqu'un est venu voir entre les deux épisodes, là, service pour me dire, écoute, regarde ça, il y avait plusieurs théories, ils disaient, ouais, mais j'ai vu à quelque part, j'avais lu que, mais toi, c'est ton 31 en Europe, ça faisait allusion à chaque 31 fils du costume royal, de l'habit royal, à chaque 31 fils, il fallait que tu mettes un fil en or, et puis apparemment en Angleterre, d'où nous sommes issus, on a toute cette influence britannique, au niveau de l'Angleterre, c'était à toutes les 36 fils, et de là que viendrait l'expression. Hey, je sais pas, Michael m'en a montré comme une tonne tantôt, de toutes sortes d'explications, on essaie d'expliquer d'où ça vient. Mais on se comprend, qu'est-ce que ça veut dire? Se mettre sur son 36, mets-toi beau. Mais sors ton beau costume, mets-toi beau, là. Mets-toi chic, c'est ça que ça veut dire. Ce que Paul est en train de dire, c'est justement, mets-toi sur ton 36. C'est ça le message. Tu veux changer, tu veux ressembler davantage à Jésus-Christ, mets-toi sur ton 36. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Laissez-moi expliquer ça un petit peu. Premièrement, c'est enlève ton vieux linge. Ça commence comme ça. Faut que tu te débarrasses de ton vieux linge. Et c'est ce que Paul va faire. C'est le verset 17 à 19. Débarrasse-toi de ton vieux linge. Ensuite, porte ton linge neuf. D'accord? Porte ton linge neuf. On va expliquer ce que ça veut dire. Alors, il commence au verset, justement, verset 17 à 19. Il dit, enlève ton vieux linge. Alors, Paul commence en décrivant notre vieux linge. Alors, en d'autres mots, notre ancienne façon de vivre avant d'être chrétien. D'accord? Ce qui correspond à au péché, finalement. Alors, débarrasse-toi du péché. Tu veux grandir dans le Seigneur, il faut absolument que tu travailles pour avoir des victoires sur ta vie. Tu te débarrasses de ton vieux linge. Fouille dans tes commodes, dans tes tiroirs. Qu'est-ce qui traîne dans ta vie qui ne devrait pas être là, là? Enlève ça de là. Alors, Paul commence en retournant dans notre passé. Maintenant, pourquoi Paul sent le besoin de retourner dans le passé? Il me semble que ce n'est pas très édifiant. Moi, j'ai des très mauvais souvenirs avant d'être chrétien. Quelques bêtises j'ai faites dans ce temps-là. Je n'étais pas fier de moi, puis je serais même gêné d'en parler ce matin. Alors, pourquoi sent-il le besoin de retourner dans le passé? Puis, regarde ce que tu étais là. Regarde, je veux que tu te souviennes, regarde ce que tu étais là. Mais il y a deux raisons pour ça. Premièrement, la joie. La joie, certainement, de dire, oh boy, merci Seigneur, tu m'as sorti de ça. N'est-ce pas? Et c'est un beau rappel de dire, OK, ça c'est une joie que le Seigneur m'a sorti de ce style de vie-là. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont un style de vie très tranquille. Même s'ils ne sont pas croyants, ils sont incroyants, ils ne croient pas en Dieu, ils peuvent être athées, puis ils ont une vie pas mal rangée et très bien. Mais tu sais quoi? La Bible dit qu'on s'en va tous à la même place au bout de ligne. La Bible parle du jugement dernier, parle de l'enfer. Et tu peux mener une vie exemplaire puis être un modèle. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu refuses Jésus-Christ. La Bible est bien claire qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? Nous allons tous passer par là, à moins que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ. Alors, c'est quelque chose de très solennel, très sérieux, là. On se réjouit. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a même dit, moi, si ce n'était pas du Seigneur Jésus-Christ, je serais mort aujourd'hui. Alors, certains ont eu un passé très difficile. On a entendu la semaine dernière que les baptêmes, les témoignages des baptêmes, des vies brisées. Alors, il y a une joie dans le cœur de dire, gloire à Dieu, tu m'as sorti de ça. Gloire à Dieu. Moi honnêtement, si ce n'était pas du Seigneur, là, probablement qu'on serait divorcés, ma femme et moi, là. Ouf, mon Dieu, j'avais pas d'allure. J'avais vraiment pas d'allure, je le dis. Là. Ma femme a été tellement patiente avec moi. Ça prenait un miracle. Un miracle, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et d'autres personnes, des fois, ils finissent par un divorce. Même si c'est pas agréable, personne qui se marie en disant « on va se divorcer si ça ne marche pas ». C'est dur pour tout le monde. Et je peux certainement avoir de la sympathie. J'ai tellement visité des couples que c'était épouvantable. Donc merci Seigneur. Où est-ce que je serais aujourd'hui? Où est-ce que je serais aujourd'hui si ce n'était pas Jésus-Christ? Ça, c'est une bonne question à se poser. Paul, ça remplit mon cœur de joie, de savoir que Jésus est venu dans ma vie. Deuxièmement, la raison pour laquelle il retourne dans le passé, c'est qu'il veut nous rappeler quelque chose, qui est une réalité aussi. C'est que notre passé nous suit. Là. Il y a quelque chose de notre passé qui s'accroche à nous autres. Maintenant, si le royaume de Dieu était réalisé parfaitement ici, là, et que Jésus revenait aujourd'hui, là, si Jésus revenait aujourd'hui, on serait parfait. Ça serait fini. On changerait du tout au tout, il nous changerait, on deviendrait sans péché, on serait parfait, ça serait super. Mais ce n'est pas le cas. Jésus n'est pas encore ici. Il va venir un jour. Alors, on a besoin de continuer à grandir. Et on a besoin d'avoir des victoires sur victoire. Et il y a comme un arôme de péché qui reste là et qui nous suit. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Terminator. Le film de Terminator, c'est un film de gars, là. Hein, les gars? Il y a des femmes qui aiment bien ça. Ma femme aime ça, c'est toutes les bébites, dans les films avec des bébites, puis toutes les affaires comme ça. Là. Alors, on a vu le Terminator, ça fait quand même plusieurs années, avec Arnold Schwarzenegger. Puis il y a une affaire qui se passe, c'est que ça, c'est un cyborg. Il vient de l'avenir, qui revient pour tuer une femme, qui va avoir un enfant, qui va changer le cours d'histoire. Puis, et là, ils se battent contre cette machine-là, qui est déguisée comme en être humain. Dans le fond, c'est un robot, c'est une machine. Et c'est très avancé, là. Puis là, ils essaient de le tuer, puis de le détruire, puis il ne meurt pas, le Snorro. Ils ne sont pas capables de le tuer. Il vit, il est là, puis il se relève. Puis là, à un moment donné, quand tu tires, il y a à peu près, comme je ne sais pas combien de coups de balle qui se passent dans ce film-là. Finalement, tu sais, le bras lâche, il y a des morceaux à terre, puis tout ça. Puis là, tu commences à relaxer. Tu penses que tu es correct. Tu es là, tu commences à dire, ouh! Là, d'un coup, il y a une main qui sort. Puis ça, c'est, ouh! T'es là dans le cinéma, il y a une main qui sort, qui s'accroche à ta cheville, puis il veut pas te lâcher. Tu pensais que t'es mort? Ben, sais-tu quoi? Ton ancienne vie, c'est comme ça, c'est le bras de Terminator qui te suit, puis il s'accroche avec toi, puis il te suit, puis il veut pas te laisser avancer puis grandir dans le Seigneur. Ça, c'est ton passé. Ton passé, c'est le bras de Terminator. C'est ces vieux péchés-là qui refont surface, qui s'accrochent, puis il veut pas te laisser. Il veut t'empêcher d'avancer puis de grandir dans le Seigneur. Donc, faut que tu sois conscient de ça. Faut que tu sois très conscient que c'est là à tout moment, puis ça peut t'envoyer des tentations pour essayer de te ralentir. Alors, qu'est-ce que Paul va faire? Alors, Paul va donner de la psychologie de l'incroyance. La psychologie qui veut simplement dire psyché, logie, c'est la science du comportement humain. On dit théologie, la science de Dieu, l'étude de Dieu. Psychologie, l'étude du comportement humain. Et là, il va nous donner la psychologie de l'incroyance. Il décrit la pensée et le cœur de l'incroyant. Comment ça fonctionne, cette personne-là, la dynamique de l'incroyant qui est sans Jésus-Christ. Et voici ce qu'il va dire. Il va décrire trois choses. Il va parler de la condition du non-croyant, la raison de cette condition-là et la conséquence. La condition du non-croyant, essentiellement ce qu'il va dire au verset 17, il dit « La pensée est affectée. La pensée de l'incroyant est affectée. » Deuxièmement, le cœur s'endurcit, verset 18. C'est la raison de cette condition-là. Et la conséquence de cet endurcissement-là, c'est que ça a un impact sur notre boussole morale. Savoir distinguer entre le bien et le mal, c'est très difficile parce qu'il y a comme un aveuglement qui est là. Donc, la boussole morale en est affectée puis fonctionne pas bien. Les théologiens, ils aiment ça, inventer des gros mots. Là, ils appellent ça l'effet noétique du péché, qui veut simplement dire que le péché affecte notre façon de penser. Alors, la condition, la cause et les conséquences. Voilà le problème. On a été créé pour vivre pour Dieu. Dieu nous a créé pour ça. Mais on refuse de vivre pour Dieu. On veut vivre pour autre chose. Un tas d'autres affaires, mais pas pour lui en tout cas. Et le résultat, c'est que les autres choses pour lesquelles on veut vivre et qu'on aspire vont nous rendre esclaves, vont nous piéger. C'est un cercle vicieux. On devient accro. Et que ce soit la gloire, l'argent, l'orgueil, la sexualité, le pouvoir. Éphésiens 4 nous dit que nous sommes pris dans ce cercle vicieux quand on refuse l'Évangile. On est pris. Notre cœur s'endurcit et notre pensée ne voit pas clair. Le commentateur Harold Urner, qui a fait un commentaire sur la lettre aux Éphésiens, l'explique comme ceci. Il dit, regardez bien comment c'est comme une boule de neige qui va tourner. Regardez bien, tout est enchaîné là. Il dit, l'endurcissement de leur cœur envers Dieu cause leur ignorance. Leur ignorance concernant Dieu et sa volonté cause leur séparation de la vie de Dieu. Leur séparation cause l'aveuglement de leur pensée et leur aveuglement cause une marche guidée par la futilité de leur pensée. Verset 18, Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Un incroyant a l'intelligence obscurcie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Ça peut être un génie. Ça peut avoir quelqu'un qui a 160 de quotient intellectuel. Ça n'a rien à voir avec la capacité intellectuelle d'un individu. Ils sont aveuglés dans leur intelligence. Ils sont séparés de la vie de Dieu parce que le cœur est endurci. Parce qu'on ne veut pas que Dieu soit notre maître, on est aveuglé. On ne peut pas comprendre Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre la foi chrétienne parce qu'ils sont aveuglés. Il y a un voile devant leurs yeux. Lorsque je vais à Montréal, j'aime bien passer sur la 50, l'autoroute 50. Et lorsque je passe sur l'autoroute 50, il y a un moment donné, je ne me souviens pas exactement c'est où, je pense que c'est à Grenville. Là, tu es vraiment très, très haut. Tu vois toute la vallée descendre. Et puis là, tu as la rivière de l'Outaouais en bas. Et c'est spectaculaire. Moi, je dirais, honnêtement, je dirais, ça fait pas très, très longtemps qu'on est ici, mais moi, je dirais que c'est une des scènes les plus spectaculaires de la création de Dieu dans la région. Bon, à part le belvédère qui se trouve juste en haut du parc de Gatineau, je dirais que c'est probablement dans les top 10, en tout cas, des belles places de la région à voir. Mais, je suis allé sur la même 50, l'autoroute 50, même gars, toujours Normand qui conduit, et tout d'un coup, cette journée-là, ça donnait qu'il y avait une immense brume. Et de la brume, là, incroyable. C'était comme un mur. Et je vous dis, je ne voyais absolument rien. C'était gris. C'était vraiment très dangereux. Non seulement tu ne voyais pas le paysage, tu ne voyais même pas la voiture en avant de toi. Tu ne savais même pas s'il y avait des voitures en avant de toi. Tu ne voyais absolument rien, là. Je n'avais jamais vu ça. Je ne pense pas que j'ai vu ça déjà aussi intense de ma vie. C'était incroyable. Maintenant, il y avait un beau paysage en arrière. C'était magnifique. Il y avait un chef-d'œuvre en arrière. Mais je n'étais pas en mesure de le voir à cause de l'immense brume devant mes yeux. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est justement ce qui se passe avec celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. C'est pas une question d'être... Moi, j'avais la même intelligence que la semaine avant. J'avais les mêmes yeux. C'est pas une question de capacité. Je voyais bien clair. Mais je voyais rien à cause de cette brume qui se trouvait en avant de moi. Et c'est ce que Paul est en train de dire dans un autre passage, dans 1 Corinthiens. Et lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 2, il dit, « L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, le problème n'est pas avec nos yeux. Le problème, ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. Il ne s'agit pas de notre capacité ici. Être chrétien n'a rien à voir avec notre intelligence ou nos capacités. La différence relève plutôt de ma décision d'aller à Dieu ou pas pour lui demander de m'éclairer et enlever ce voile qui est devant mes yeux, qui m'empêche de voir la splendeur, le chef-d'œuvre de Jésus-Christ. Humblement. Mais ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. D'ailleurs, il y avait deux personnes, c'est deux chums, deux bons amis, William Pitt et William Wilberforce. C'était deux grands amis, un n'était pas chrétien, puis l'autre l'était. Pitt n'était pas chrétien, un homme brillant, plusieurs diplômes, quotient intellectuel très élevé, plus intelligent encore que Wilberforce. Une grande capacité intellectuelle. Un jour, Wilberforce, qui est chrétien, l'invite à aller à l'église. Il était tellement content. Il était content que son chum, qui n'était pas chrétien, accepte d'aller à son église. Et ça donnait ce matin-là que la prédication, c'était super. Mon ami, là, c'était puissant, c'était fantastique. Et Wilberforce se disait dans sa tête, « Man! » Il dit, « J'aurais pas pu choisir un meilleur matin que ça! » Ah, c'était tellement bon, lui-même se sentait comme dans le ciel. Ah, c'était bon, Dieu avait touché son cœur et tout ça. Il avait tellement hâte de sortir de l'église et de demander à son chum, « Puis, t'as-tu aimé ça? » Puis, effectivement, à la fin du service, les deux sont sortis. Alors, Wilberforce se retourne vers son chum et il dit, « Puis, comment t'as aimé ça? Comment t'as trouvé ça? » Tu sais? L'autre, il a une grande capacité intellectuelle, le regarde et il dit, « J'ai absolument rien compris. » J'ai rien compris. Parce que, vois-tu, c'est pas une question de capacité intellectuelle. Il y a un voile devant tes yeux et il faut que humblement tu demandes à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. C'est l'œuvre de Dieu, cette affaire-là. C'est pas une question d'intelligence. C'est spirituel. Et d'ailleurs, tu demandes aux gens, tu sais, une fille ou un garçon, aujourd'hui, là, secondaire, cégep, université, puis qu'ils se gardent sexuellement jusqu'au mariage. Va dire ça à TV. Tu vas passer pour quoi? T'es weird! Sur quelle planète tu vis? Parce qu'ils comprennent pas! Je me rappelle comme c'était hier, une journée, c'était un service de baptême. Puis il y avait un gars qui allait se faire baptiser, qui avait une famille, il y avait deux frères, c'était trois dans la famille. Et puis, le gars qui allait se faire baptiser, a invité son frère. Puis son frère était très hostile à l'Évangile, ne voulait rien savoir de l'Évangile, était tough, c'était un bagarreur, un gars qui se battait dans les clubs, c'était un tough, je vous ai déjà raconté l'histoire, mais je vais ajouter un petit élément que je n'ai jamais ajouté. Et c'était tough, mais il a accepté quand même, sa famille était là, puis son frère se faisait baptiser, puis ça, il a accepté pour être poli. Alors lui, il restait avec sa blonde, les deux ensemble, tout ça, pas un chrétien. Fait que là, il attend parce qu'après le baptême, il y a un gros buffet, fait que là, il y a une grande file d'attente, puis tout ça. Puis là, il était debout avec sa copine, il attendait pour aller chercher un plat, une assiette. Là, il me regarde en passant, je passais, puis il dit, « Hey, c'est toi le pasteur, là? » J'avais le goût de dire, « Non, c'est pas moi, c'est le gars là-bas en avant. » Parce que moi, je le connaissais, je l'avais entendu parler. Fait que, hey, puis son frère m'avait dit, il est mauvais, mauvais. Hey, il m'avait déjà dit, d'ailleurs, il avait déjà dit à son frère, il dit, si jamais tu parles de Jésus, je t'en fous une, t'es en face, mon gars. Puis il l'aurait fait, là. Il faisait régulièrement, il se battait dans les clubs régulièrement. Là. Un tough, c'était un dur. Fait qu'il dit, c'est toi le pasteur, ici? Je lui dis, ouais, ouais, c'est moi, oui. Fait que, là, il dit, j'aimerais ça que tu viennes t'asseoir avec nous autres, on va dîner, là, puis j'ai quelques questions à te poser. Fait que je dis, ah, OK, c'est dans. OK, parfait. Fait que, je suis allé. J'étais allé m'asseoir, puis ça, commencer à manger, puis ça. Et puis là, il m'a posé une première question qu'il m'a posée. Imagine-toi, tu sais, moi, dans ma tête, là, OK, ça va être super, on va pouvoir parler de Jésus. Il y a sûrement des questions sur la Bible, tout ça, tu sais. Et là, il me pose une question. C'était la pire question qu'il pouvait me poser. Pose-moi pas ça! Pose-moi une question sur Jésus, sur la Bible. Première question qu'il me pose. Il me regarde, il dit, là, il dit, t'es-tu en train de me dire, toi, là, il dit. Les autres, là, ici, là, ils disent, tu veux dire, moi, si je viens à Jésus, faut que j'arrête de coucher avec ma blonde? Imagine-toi! Pas celle-là! Tu sais, il y a des questions comme ça. Pas cette question-là! Parle-moi de Jésus! Oh, brother, j'ai dit, aïe, aïe, aïe! Comment tu réponds à ça? Aïe, aïe, aïe. Si j'étais ici, j'aurais dû aller voir Gaétan Pilon, tu sais, je sais pas, mais. Là, il me pose la question, il faut que je réponde. Là, j'ai dit, bon, OK, ça marche. Ben, j'ai dit, ben oui. Ben oui. Puis non seulement ça, c'est tant qu'à en mettre. Tant qu'à me faire battre. On va y aller, hein? On y va pour le tout, pour le tout. Fait que, j'ai dit, ben oui, puis pas juste ça, pour ça, si tu acceptes Jésus. Non seulement ça, non seulement tu couches pas avec, mais il faut que tu prennes tes valises, tu sortes de là, puis tu trouves un autre logement. Boum! On a continué à jaser. On a jasé pendant une heure et demie. J'ai toutes sortes de questions. Ah, c'est des questions plus faciles. T'sais. Ben écoute, tu fais le passant plus tough. Après ça, ça peut juste être up the road. Ça peut juste être mieux. Fait que là, il continue de jaser. Hey, deux jours après, son frère m'appelle. Hey, il dit, Normand, tu sais pas quoi? Mon frère a accepté le Seigneur. Je dis, ah! Mon ami, c'était la pire technique d'évangélisation. J'aurais échoué un cours d'évangélisation. Pire! Mais sais-tu quoi? C'est pas Normand Joseph. C'est Dieu qui a enlevé le voile de sur ses yeux. Puis tout d'un coup, il a commencé à voir la beauté de l'Évangile, le chef-d'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que j'entends des « Amen »? Et que c'est encourageant, parce que certains ici, vous avez des membres de votre famille, ça fait des années que vous leur parlez de Jésus-Christ, puis ils sont pas encore venus. Hey, bon courage! Ma fille a accepté le Seigneur en allant voir un film. Un film inconverti, ça n'avait rien à voir avec Jésus-Christ, ça parlait de Satan, elle a eu tellement peur qu'elle a cherché sa Bible toute la nuit. Hey, there is a God, do you agree? Oh, man! Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et comme c'est encourageant, la brume est partie. Alors, l'aveuglement dont on parle, cet aveuglement spirituel, ça n'a rien à voir avec notre